Bonjour à tous et bienvenue ici sur BXL On Air, la rubrique qui aborde le sujet du multilinguisme en entreprise. En effet, selon une étude, 40 milliards d'euros de notre PIB provient du multilinguisme de nos employés. Mais comment les chefs d'entreprise gèrent-ils ces différences linguistiques auprès de leur personnel ? Avec nous dans les studios aujourd'hui pour en parler, Catherine de Meulenard, Policy Advisor chez KBC Brussels et Kathleen Herrmann, directrice générale du Business Language Communication Center. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux brugeoises, donc néerlandophones à la base, mais parfaitement francophones. On va parler avec vous aujourd'hui donc, du multilinguisme. Catherine, je vais commencer par vous aujourd'hui. Qui êtes-vous ? Dites-nous-en un peu plus.
Eh bien, je suis Catherine Meulenard, donc je suis née à Bruges, donc une vraie Flamande, disons. Hein, mais j'ai marié un Espagnol et l'histoire s'est commencée là-bas. Hein. Je me suis réalisée que les langues, ça ouvre des portes, pas uniquement dans le privé, hein, pour parler, faire des liens avec des gens, mais aussi dans le professionnel. Et alors, j'ai appris l'Espagnol. Et après, bon, le français, j'avais appris un peu à l'école, mais c'était loin. Hein, c'est quelque chose quand on étudie. J'ai fait des études à Leuven, l'Université catholique de Leuven. Et alors là, on étudie en néerlandais et en anglais. Et puis le français, eh bien, ça aussi un petit peu, mais pas trop. Et après, on est venu à Bruxelles. Je travaille à Bruxelles depuis 2002. Alors, j'ai vite compris, ici, il y avait un monde que, bon, c'était un monde à découvrir. Et la langue, hein, c'est la « it's the way to go », comme on dit en anglais.
C'est ça.
Quand on parle la langue, bien, on fait un lien avec les gens, on commence à parler et on fait du commerce. C'est comme ça que je le vois toujours.
D'accord. Et alors, le multilinguisme chez KBC Brussels, voilà, comment est-ce que ça se traduit? Quels sont les enjeux majeurs chez KBC en cette matière?
Et bien, pour ça, il faut que je raconte un peu d'histoire, parce que KBC Brussels, c'est une marque au sein de KBC Group. Hein. Donc, on a trois marques en Belgique. En Flandre, c'est la KBC. En Wallonie, c'est la CBC. Et à Bruxelles, on a KBC Brussels. Alors pourquoi une troisième marque, hein? Ben c'est clair, parce qu'on a voulu donc créer une marque explicitement pour le marché bruxellois. Parce que, oui, avant, on avait des agences KBC en Flandre et des agences KBC à Bruxelles. La même chose pour la Wallonie, CBC en Wallonie, et aussi quelques agences, une dizaine d'agences CBC à Bruxelles. Mais avec ces deux parties ensemble, on n'appartient même pas une part de marché de 9 à 10%. Donc, ce n'était pas beaucoup. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à atteindre une bonne part de marché? Eh bien, voilà, c'était à cause du fait qu'on ne parlait pas la langue des Bruxellois, en fait. Hein. Quiconque connaît Bruxelles un peu moins constate que Bruxelles a évolué énormément. Il y a une énorme diversité, il y a une multiculturalité. Je crois qu'il y a une centaine de langues qui sont présentes à Bruxelles et 180 nationalités. Donc voilà, on a dit, si on veut vraiment faire des affaires avec les Bruxellois, il faut qu'on crée des équipes diverses, avec une certaine diversité dedans. Et alors on a commencé à recruter des gens, des Bruxellois. Et ce sont des Belges, bien sûr, mais ils sont d'origine, je crois qu'on a d'origine de 30 pays différents, donc c'est vraiment très intéressant. Alors l'histoire commence, voilà, comment est-ce qu'on va gérer ça? Beaucoup de langues viennent ensemble, donc on a dû créer donc, une politique linguistique, c'est-à-dire il faut prendre décision, quelles sont les langues qu'on va mettre en avant, parce qu'il est impossible de parler toutes ces langues, hein. Donc, on a mis en avant, bien sûr, le français, le néerlandais, l'anglais, hein, mais pas tout le monde était capable de parler ces trois langues parce qu'ils venaient de partout. Hein. Alors, on a créé donc une structure, donc, c'est-à-dire beaucoup d'organisations. D'abord, prendre des décisions, quelles sont les langues qu'on va mettre en avant et comment est-ce qu'on va organiser que tout le monde commence à parler ces trois langues-là. Et alors, on a organisé des cours en ligne, des cours classiques. On a travaillé ensemble avec une école internationale de langue. Hein. Et comme la politique linguistique disait que tout le monde devait atteindre un niveau standard de B1, qui est déjà assez élevé, pour les collaborateurs BE, et pour les dirigeants, pour les managers, ça, on a mis la date un tout petit peu plus élevée, on a demandé un niveau B2. Alors, tout le monde était parti, parce que bon, c'était vraiment une nécessité pour pouvoir communiquer dans l'entreprise, entre collègues, avec les clients, avec la direction, mais aussi avec les parties externes.
D'accord. Kathleen, voilà, vous êtes experte en la matière aussi au niveau du multilinguisme. Quels sont généralement vos conseils quand vous conseillez une entreprise comme par exemple KBC dans la gestion de cette diversité? On en a parlé effectivement, 180 nationalités à Bruxelles. Voilà, comment est-ce qu'on gère ça?
Oui, mais ce que j'aime bien dans l'histoire de la KBC, c'est qu'au fait, il y avait une politique au départ. Hein, donc, il y avait vraiment cette prise de conscience, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces langues. C'est important pour réaliser la stratégie de l'entreprise. Donc, il faut une stratégie de langue aussi. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans beaucoup de sociétés. Donc, ça, c'est un conseil qu'on donne toujours aux grandes entreprises, c'est qu'il faut instaurer quelque part un plan, une stratégie, il faut savoir où on veut aller et bien comprendre comment les langues ou le multilinguisme peut contribuer à ce plan.
D'accord.
Par exemple, beaucoup d'entreprises n'ont pas toujours connaissance de toutes les compétences linguistiques déjà présentes dans une organisation, comment les exploiter et surtout aussi voir quel niveau de langue est requis pour quelle fonction. C'est quelque chose que les entreprises ne connaissent pas toujours. Ils viennent chez nous quand il y a un problème. Le problème est déjà là depuis un certain temps, mais au fait, ils n'anticipent pas assez ce genre de problème. Donc ça, c'est un conseil que je donne aux grandes entreprises. Il faut anticiper quelque part les problèmes avant qu'ils ne soient là. Il faut
D'accord.
avoir une politique claire.
On a parlé aussi de formation classique, donc en présentiel. On a parlé de formation digitale. Comment est-ce que, aussi avec la crise du Covid, le télétravail, est-ce que c'est un enjeu en plus qui vient s'ajouter? Comment est-ce qu'on peut gérer la digitalisation aussi du multilinguisme?
Nous, chez BLCC, on croyait déjà fort dans le format digital. Donc, on ne nous a pas vraiment obligés, quelque part, à changer notre méthodologie. On croyait déjà fort en cette méthode-là, parce que ça nous permet, au fait, de faire des sessions plus courtes. Et c'est bien de prolonger, au fait, l'apprentissage dans le temps par des sessions plus courtes. Hein. Ce n'est pas évident de faire des sessions de 2 heures, de 3 heures. Souvent, la durée d'une session de cours est au fait définie par des aspects pratiques. Hein, il faut que le formateur se déplace, mais pas tellement d'un point de vue pédagogique ou didactique. Donc là, des sessions courtes sont quelque part plus efficaces. On pense aussi qu'on peut envoyer virtuellement plus facilement les meilleurs coachs. Parce qu'il faut un coach qui est quand même, il doit y avoir quelque part une expertise spécifique selon les sociétés où les formateurs travaillent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on réalise aussi plus facilement en virtuel qu'en face à face. Parce que si on doit envoyer un formateur qui vient de Bruges à Bruxelles parce que justement, il a par exemple une affinité avec le monde bancaire, ben c'est très difficile. On ne va jamais pouvoir motiver un formateur de faire toute cette distance. Donc en virtuel, ce sont des choses qui finalement, c'est plus facile. Évidemment, il faut une autre approche. Les formateurs doivent s'adapter à un contexte virtuel. Hein. L'interaction devient encore plus importante. Mais si on gère bien ces aspects-là, je pense que le virtuel n'est pas c'est pas un plan B.
D'accord.
Ça peut être tout à fait un plan A.
C'est tout à fait complémentaire.
Tout à fait.
Kathleen, vous travaillez dans le secteur bancaire. Comment est-ce que les spécificités du secteur bancaire se traduisent aussi dans la mise en œuvre d'une politique multilinguiste en entreprise?
Eh bien, voilà, nos collaborateurs, donc, ils sont demandés, en fait, à apprendre la langue parce que c'est vraiment une nécessité pour pouvoir communiquer avec les clients, hein. Dans le domaine de finance, et c'est très important, parfois dans le finance, il y a des moments clés hein, où on a vraiment besoin d'une banque, besoin d'un service. Donc il est important que nos collaborateurs mettent bien le lien avec les clients. Donc la la coopération et la communication, pas uniquement entre eux, mais aussi avec les clients, est tellement important. Donc voilà, parler une langue non maternelle, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Hein. Donc il faut vraiment faire un effort pour étudier un peu la langue non maternelle. Et alors dans le domaine bancaire, on communique avec des collègues, pas uniquement les collègues dans les équipes, mais aussi au siège central, avec les clients et parfois aussi avec des parties externes comme les notaires, etc. Donc partout, on a besoin de ces langues. Donc c'est tellement important de bien communiquer pour avoir une excellente coopération.
Et vous parlez d'efforts qu'il y a à faire. Est-ce que c'est une barrière que vous constatez auprès des employés chez KBC? Est-ce que c'est difficile pour ces employés de faire cet effort d'apprendre une nouvelle langue au final?
Oui, c'est pas évident parce que, pour l'instant, je crois que la moitié de nos collaborateurs est néerlandophone et la moitié est francophone. Donc là, ça commence déjà. Donc il va faire un effort pour les deux langues. Mais en plus, il y a aussi l'anglais, hein, parce qu'il y a beaucoup d'expats à Bruxelles. Oui, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, parce que parler la langue non maternelle, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'ils sont très motivés à suivre des cours. Hein. Mais le problème, c'est qu'on est une entreprise cotée à la bourse, la performance est tellement importante, comment va-t-on trouver le temps pour suivre des cours, hein? C'est pour ça qu'on a aussi un impact organisationnel. Il faut vraiment mettre en place, pas uniquement une politique linguistique, mais aussi toute une organisation. Donc on organise des formations pendant les heures de travail. Ce sont des cours qu'on offre gratuits. Parce qu'ils sont des cours gratuits, parce qu'on ne va quand même pas demander de l'argent à nos collaborateurs. Hein. Mais il est très important qu'ils le font. Et donc, nous avons un système. Ils suivent d'un côté des cours en ligne avec un professeur, hein, mais il y a aussi un an accès à une plateforme numérique pour entraîner. Quand ils ont un moment de temps, ils peuvent faire des exercices sur la plateforme numérique. Et ça, c'est important. Mais à mon avis, ce qui est le plus important, c'est pouvoir entraîner, pratiquer sur le lieu de travail. Parce qu'on constate, s'ils sont capables, ils s'y trouvent le temps de communiquer entre eux, dans leur langue qui n'est pas leur langue maternelle, on voit que les résultats sont énormes. Et ça, c'est à mon avis très important. C'est pas uniquement suivre des cours, mais aussi prendre le temps et le faire, en fait, parler avec les collègues, oser à parler. Parce qu'il y a une certaine barrière, tout le monde ne se sent pas, personne ne se sent à l'aise quand il doit parler une langue qui n'est pas sa langue maternelle. On sait qu'on fait des fautes, donc il est important qu'on s'exprime aussi en tant que manager et la direction, qu'on n'attend vraiment pas la perfectionnisme.
C'est ça. Est-ce que cette peur de parler, Kathleen, est-ce qu'elle est plus importante sur le lieu du travail que dans des contextes plus privés, de par le contexte professionnel?
Oui, je pense. Je pense parce que le contexte est quand même plus stressant. Hein. Il faut être à la hauteur par rapport à des clients, des collègues, des fournisseurs. Donc, on sera peut-être plus vite jugé dans un contexte professionnel que dans un contexte privé. Il en dépend aussi peut-être plus. Hein. Donc oui, l'impact est plus important dans un contexte professionnel. Donc oui, je pense que ça contribue quand même à un niveau de stress plus élevé pour les collaborateurs.
Et quelles sont alors d'éventuelles solutions qu'on peut mettre en place pour enlever ce stress? Est-ce qu'au final, ça veut dire aussi que le multilinguisme ou l'apprentissage des langues a un impact sur le bien-être d'un employé?
Oui, je pense, parce qu'au fait, quand on arrive à s'exprimer de façon plus ou moins naturelle, qu'on ne se sent pas jugé, qu'on peut aussi faire des fautes, hein, que finalement on ne se sent pas jugé quand on fait des fautes, ça peut contribuer au bien-être. Et cela a d'autres conséquences positives sur la collaboration, sur l'ouverture, sur l'empathie, sur la productivité. Donc tout ça se tient. Oui, il faut au fait, j'adhère vraiment à ce que Catherine a dit, hein, donc il y a les formations, mais les formations c'est qu'un aspect, il y a tout un travail de sensibilisation qu'un management peut faire en entreprise, il y a des initiatives informelles, il y a l'étude personnelle, il y a aussi oser parler, il faut travailler là-dessus. Justement dans les cours, il faut je pense créer une atmosphère vraiment positive, pour que les gens soient à l'aise, osent parler, et c'est tout en parlant au fait qu'on apprend encore plus. Donc tout ça, ça se tient.
D'accord, oser parler. Ok, au niveau du recrutement, Catherine, comment est-ce que cette, l'importance du multilinguisme dans la stratégie au final de l'entreprise, comment elle se traduit au niveau du recrutement et également au niveau de l'apprentissage, de la formation continue de l'employé que vous allez recruter en cette matière de multilinguisme?
Eh bien, vous savez certainement que le travail du marché est très tendu pour l'instant, c'est-à-dire les profils diplômés, qualifiés, ils sont fort demandés. Tout le monde veut en fait les mêmes profils et surtout ici dans un contexte international Bruxelles. Les gens qui savent dire qu'ils disposent des compétences linguistiques, ils sont encore très privilégiés, donc c'est très difficile à les trouver aussi. Hein. Alors pour nous, donc, on a une politique de recrutement très ciblée. On cherche surtout des bacheliers et des masters. Ça, c'est vrai, c'est parce que ça, naturellement, le niveau, la connaissance bancaire et tout ce qui est finance, c'est pas toujours très facile. Donc, on demande des diplômés. Mais quand ils ont les compétences linguistiques, ils sont quand même très privilégiés. Mais comme c'est très difficile à les trouver, dans notre publicité, ou bien on met des vacatures, on ne demande pas explicitement, on n'impose pas explicitement la nécessité d'avoir les connaissances linguistiques. Hein. Ce qu'on dit ou ce qu'on demande, c'est que ces gens-là, ces candidats, est-ce qu'ils ont la volonté d'apprendre des langues? Parce que nous savons que si on impose, si on dit, voilà, il faut vraiment être trilingue ou bilingue, c'est difficile parce qu'ils sont fort demandés partout. Donc, ça, on n'arrive pas à trouver des candidats. Donc, pour nous, le système, notre stratégie, c'est plutôt, on cherche quand même des masters et des bacheliers, mais si le candidat montre la volonté d'apprendre des langues qui ne sont pas ses langues maternelles, c'est déjà OK pour nous.
D'accord.
Et après, on stipule aussi qu'on n'exige pas le perfectionnisme. Donc, comme ça, on essaye donc trouver quelques jeunes quand même aussi sur Marseille, parce qu'il y a toujours la barrière de langue. Hein, donc c'est pour ça qu'on a dit on ne va pas mettre la latte trop élevée, mais il faut quand même sentir qu'ils sont prêts à étudier.
D'accord. Donc on parle aujourd'hui souvent aussi d'autres métiers en pénurie. On parle beaucoup de l'importance des nouveaux métiers, des métiers de demain, des métiers STEM. Est-ce que ça va au détriment du multilinguisme, Kathleen? Comment est-ce que vous avez vu ceci évoluer au fil du temps à Bruxelles, mais également en Flandre ou en Wallonie?
Il est vrai que nous, on constate que le niveau moyen de la connaissance du néerlandais et du français est en baisse. Hein. Donc depuis 5 à 10 ans, on voit quand même le niveau moyen diminuer. À voir évidemment quelles sont les causes de cela. Je pense que c'est vrai qu'on a beaucoup quand même les dernières années mis l'accent sur tout ce qui est études STEM. C'est un peu dommage dans ce sens que ça va au détriment, je pense, de l'importance des langues. Hein. Pourquoi les études de langue seraient moins importantes quand on connaît évidemment les besoins sur le marché. Donc oui, ça, c'est probablement une des causes. Bon, il y en a probablement d'autres, mais ça n'aide pas, évidemment.
C'est ça. Et alors, le multilinguisme, quand il est mal géré, peut-il représenter également quelque part une menace pour la continuité des activités commerciales, Catherine?
Oui, absolument. Hein. Donc, je dis toujours, une bonne coopération, ça dépend d'une bonne communication. Parce qu'une bonne communication, ça fait un lien chaleureux, ça fait donc une ambiance, une bonne atmosphère, et tout se passe bien. Les gens, ils travaillent bien, ils ont une excellente collaboration. Mais par contre, s'il n'y a pas une bonne communication, s'ils n'arrivent pas à se comprendre, il y a très vite des malentendus, des conflits. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant parce que, bon, la performance, ça dépend surtout d'une excellente coopération. Donc, s'il n'y a pas une bonne communication, ben, les résultats n'y viennent pas, hein. Ça, oui. C'est sûr.
Mmh. Ok, ben, c'est très clair. On va peut-être aborder aussi la question des jeunes, en fait. Hein, selon une étude menée en 2013, 51% des responsables RH estiment que les jeunes diplômés sont insuffisamment préparés pour le marché du travail. Kathleen, qu'en pensez-vous ?
Je pense que, allez, je comprends les chiffres. Nous aussi, on voit, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on voit que le niveau quand même est plutôt en baisse. Hein. D'ailleurs, ça a été vu par rapport aux objectifs de PISA, hein, qu'aussi dans tout ce qui est domaine de langue, on est au fait en chute, hein, quelque part. Donc c'est dommage. Je pense que... Oui, à Bruxelles, évidemment, le bilinguisme est quelque part un must, et l'anglais le devient aussi à côté, de plus en plus. Maintenant, je pense que beaucoup de jeunes favorisent tant, je pense, en Wallonie qu'en Flandre, favorisent quelque part l'anglais. C'est un peu dommage. Parfois même en tant que choix de deuxième langue, ils préfèrent l'anglais au lieu de prendre le français ou le néerlandais. Donc c'est un peu dommage. Et ça a évidemment un impact plus tard. Et je pense que les jeunes sous-estiment l'importance de la deuxième langue nationale pour trouver un travail quand même dans les grandes entreprises. Et les grandes entreprises, c'est quand même souvent en Bruxelles. Donc c'est quelque chose... je pense que les hautes écoles aussi, les universités commencent à le comprendre et sensibilisent aussi les jeunes à l'apprentissage de la deuxième langue nationale parce qu'on se rend compte que c'est vraiment nécessaire par la suite, au fait.
D'accord. Donc il y a eu une chute dans l'importance du multilingue au fil des années, mais là vous pensez qu'il y a une renaissance aussi, un renouveau de l'importance du multilinguisme plutôt que d'apprendre une seule langue uniforme qui est l'anglais, parce que voilà, vous estimez que l'anglais ne peut pas remplacer les différentes langues du pays.
Non, tout à fait. Je pense que l'anglais, c'est une solution pratique. C'est une solution... Il faut connaître l'anglais, hein, c'est clair. Mais quand on veut faire du business en Belgique, déjà même, je pense que la relation, comme on le disait tout à l'heure, avec les personnes est très importante. Et donc, cette relation va être de meilleure qualité quand on peut se parler dans la langue maternelle. Donc, c'est quand même quelque chose qui reste très important. Si on parle en anglais et que pour les deux personnes, ce n'est pas la langue maternelle, on a quand même une perte de la qualité de la communication. Il y a des nuances qui se perdent, qui parfois sont très importantes dans l'établissement d'une relation,
bien
qu'elle
sûr.
Soit commerciale ou autre.
Ou autre. Alors, il y a évidemment aussi cette différence intergénérationnelle. Donc, on parle des jeunes, on parle aussi peut-être des moins jeunes. Comment ça se traduit aussi au niveau de la connaissance et des enjeux de l'apprentissage dans un lieu de travail comme celui de KBC, Catherine Melenard ?
Eh bien, nous avons pris quelques initiatives pour stimuler quand même les jeunes aussi à aimer les langues, parce que ben, c'est pas toujours évident et c'est comme ma copine ici vient de dire, l'anglais est toujours en avant. Hein. Et ce que nous, on fait, et ça s'est commencé au moment du confinement. On n'avait pas l'opportunité de parler à la machine à café entre nous, hein, parce qu'on a le système qu'on peut prendre une pause de café. Et on a organisé aussi des cafés linguistiques.
D'accord.
C'est-à-dire, on prend une pause de café, on va à la machine à café, on commence à parler l'autre langue avec un collègue qui est disponible. Naturellement, pendant la période de confinement, ça n'allait pas. Donc, on a dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, on a pris quelques initiatives qui sont très gaies, qui font un peu d'animaux. C'est, par exemple, on a organisé chaque semaine une cuisse linguistique, hein, pour faire connaissance des proverbes et tout ça, ce qui était très intéressant, un peu de compétition là-dedans, beaucoup d'animaux. Et en ce qui concerne le café linguistique, on a continué à faire le numériquement. Donc, il faudrait simplement fixer un rendez-vous dans l'agenda d'un collègue pendant la semaine, une demi-heure. Et voilà, on prend le café ensemble et on parle dans la langue qu'on veut apprendre. Donc, pour les jeunes, il faut vraiment prendre des initiatives
qui sont ludiques.
Qui sont ludiques, un peu d'animaux, et j'ai constaté que ça marche.
Donc rendre ludique la chose permet de plus facilement apprendre la langue. Vous avez parlé de proverbes aussi, ce qui m'amène peut-être aussi à l'aspect peut-être un peu plus dialecte. Comment est-ce que les différents dialectes, notamment au niveau de la Flandre, il y en a pas mal, mais également en Wallonie, il y en a pas mal aussi. Voilà, comment est-ce que ça rend la chose soit plus ludique, soit plus compliquée au final? Comment est-ce que...
Oui, c'est un aspect culturel qu'on aime quand même aussi. Hein. Ce n'est pas une nécessité pour gagner une partie de marché, mais pour l'ambiance sur le plateau, sur le lieu de travail, c'est très gai. Parce que nous, on a des gens qui viennent de Wallonie, il y a des gens qui viennent de la Flandre, et parfois ils utilisent des mots, on ne comprend pas, on commence à expliquer, et ça crée une ambiance. Donc j'ai dit, pour aller... Pour ouvrir tout ça, on a besoin aussi d'une culture d'entreprise. Et une culture d'entreprise, dans ce contexte, on parle surtout des valeurs de respect. Hein? Et alors, j'ai déjà expliqué qu'il ne s'agit pas de perfectionnisme et qu'on a besoin d'un peu d'animaux parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts des gens. Et alors, l'aspect dialecte, oui, je trouve ça que c'est quelque chose de culturel qui entre dans les équipes et parfois, on s'amuse avec.
C'est ça. Kathleen, comment est-ce que vous, quel est votre avis par rapport à ce sujet? Et est-ce que vous avez quelques conseils peut-être aussi à nous partager pour faciliter l'apprentissage intergénérationnel et aussi au niveau du dialecte?
Au niveau du dialecte, c'est vrai que ça peut amener de l'ambiance, je dirais, dans une équipe. Par ailleurs, je constate quand même que c'est parfois une barrière quand même. On apprend, par exemple, le néerlandais standard et après, on se retrouve dans une équipe avec des néerlandophones qui parlent plusieurs accents. Ça ne facilite pas la compréhension. Donc là, je pense qu'il y a de nouveau un travail de sensibilisation à faire, qu'on fasse quand même un effort en tant que collègue néerlandophone de parler un néerlandais plus ou moins standard. Mais après, c'est vrai qu'il y a tous les aspects ludiques qui font partie de la langue et ça peut aussi créer des liens d'en parler. Donc oui, ça au niveau des dialectes. Au niveau des jeunes, je pense qu'il faut... L'aspect ludique est très important. Donc il faut une dynamique... positif, agréable dans les cours, dans l'utilisation de la langue. Il faut beaucoup de tolérance, il faut motiver les jeunes, hein. Il ne faut pas obliger les jeunes, il faut surtout montrer l'ouverture que la connaissance des langues peut générer pour eux. Donc je crois que le positif est très important. On est toujours dans la mentalité qu'il faut apprendre une langue, qu'on doit suivre un cours, mais non, on peut suivre
c'est
un cours de langue.
C'est une opportunité. Hein.
On va s'enrichir, on va s'ouvrir sur d'autres cultures, sur d'autres mondes. Voilà, c'est une autre façon d'aborder la même réalité, je pense.
Tout à fait. Catherine Mellenard, en guise de conclusion, si vous aviez que deux, trois conseils très rapidement à donner à une entreprise qui se lance dans le multilinguisme avec ses employés, quels seraient ces conseils?
Mais j'aimerais bien faire un appel à la direction de beaucoup d'entreprises, hein, parce que moi, je suis très convaincue du fait que le multilinguisme, ça ouvre des portes commerciales. Donc, pour moi, c'est tellement important. Mais il faut que la direction soit convaincue aussi de la nécessité, parce que si le message ne vient pas de la direction, c'est très difficile à gérer. Hein. Donc, tout le monde doit être convaincu. Il faut, comme j'ai déjà dit, il est très important donc, de mettre en place une politique linguistique pour que c'est de la clarté. Hein, comment est-ce qu'on va organiser tout ça? Et puis, je peux aussi conseiller d'instaurer une bonne culture d'entreprise où le respect est vraiment une valeur qu'on doit mettre en avant, mais aussi une culture d'apprentissage parce que les gens, ils doivent... apprendre en continu. Et les langues, apprendre les langues, ça, c'est vraiment un atout tout très spécifique. Et enfin, comme j'ai dit, il reste toujours le plaisir parce que ça demande beaucoup d'efforts des collaborateurs. Donc, il faut aussi penser à une certaine rémunération, récompenser ces gens-là parce que tout le monde sait qu'un jour, ça va apporter du profit à l'entreprise. Donc, n'oubliez surtout pas de rémunérer vos collaborateurs.
Très bien. Ben, un grand merci à Catherine de Mélénard et Calé Nerman pour vos contributions aujourd'hui sur ce sujet très intéressant. Et à bientôt, j'espère. Et merci beaucoup.
Merci. Merci.